VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonjour, bienvenue dans ce bulletin d'information devant ce micro, Nani Tutelani. Il est 11h à Washington et 16h à Nara et Kolokani dans la région de Koulikoro au Mali. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa, sous la menace d'une procédure de destitution, n'a aucune intention de démissionner et va se battre sur le plan politique comme judiciaire, ont fait savoir ce samedi plusieurs de ses proches. Il va rester, il n'y a aucun doute, a déclaré le ministère de la Justice. M. Ramaphosa a fait l'objet d'une plainte depuis juin, l'accusant d'avoir tenté de dissimuler un cambriolage dans l'une de ses propriétés en 2020, au cours duquel 580 000 dollars en espèces cachés dans un canapé ont été dérobés et il n'a pas signalé l'incident ni à la police ni au fisc. Une commission parlementaire estime que M. Ramaphosa a pu commettre des actes contraires à la loi et la Constitution, ouvrant la voie à une procédure de destitution qui pourrait être votée mardi au Parlement. Le président envisage sérieusement de demander à la justice d'annuler le rapport, avance son porte-parole Vincent Mangouignan. En Tunisie, le chef de la puissante centrale syndicale UGT, Noureddine Taboubi, a vivement critiqué ce samedi les élections législatives prévues le 17 décembre, estimant qu'elles n'ont aucune raison d'être après la réforme très contestée de la Constitution qui réduit fortement le rôle des partis politiques. Nous allons vers des élections qui n'ont ni goût ni couleur, qui résultent d'une constitution qui n'a été ni participative dans son élaboration, ni soumise à l'approbation de la majorité, a dénoncé M. Taboubi lors d'un meeting. La plupart des partis de l'opposition, y compris le parti d'inspiration islamiste ENADA, qui dominait le Parlement dissous par M. Saïd, appellent à boycotter le scrutin, dénonçant un coup d'État contre la révolution ayant renversé l'ex-président Ben Ali en 2011. La Russie affirme qu'elle n'acceptera pas le plafonnement du prix de son pétrole que l'Union européenne, le G7 et l'Australie ont prévu de mettre en place dans les prochains jours pour limiter les moyens de Moscou pour financer son invasion de l'Ukraine. Les 27 pays de l'Union européenne, le G7 et l'Australie se sont mis d'accord vendredi sur un prix maximum de 60 dollars américains pour le pétrole brut d'origine russe transporté par voie maritime. L'Ukraine, par contre, se dit satisfaite d'un tel mécanisme contraignant, voulant croire tôt ou tard à la destruction de l'économie russe sous le poids des sanctions internationales. Nous atteignons toujours notre objectif et l'économie de la Russie sera détruite et elle payera et sera responsable de tous ces crimes, s'est félicité le cabinet de la présidence ukrainienne.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Les autorités ukrainiennes appellent la population à tenir face aux coupures de courant qui rythment désormais leur vie quotidienne à la suite de frappes russes ces dernières semaines qui ont largement endommagé le réseau électrique national. La Russie a massivement bombardé depuis octobre les installations énergétiques ukrainiennes, provoquant de graves dégâts et entraînant de coupures de courant qui affectent des millions d'Ukrainiens à plonger chaque jour dans le noir et le froid. Le Parlement et l'autorité judiciaire en Iran travaillent sur la question du port obligatoire du voile pour les femmes, annonce le procureur général qui promet des résultats rapides sans préciser dans quel sens cette loi pourrait être modifiée. Le voile est devenu obligatoire en Iran en 1983, 4 ans après la révolution islamique de 1979, et la police des mœurs a été créée pour répandre la culture de la défense et du hijab. L'Iran connaît des troubles depuis la mort de Mahsa Amini, une kurde iranienne de 22 ans, décédée le 16 septembre après son arrestation par la police des mœurs pour avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique imposant aux femmes de porter justement le voile en public. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés appelle à soutenir les réfugiés syriens au Liban et les citoyens libanais vulnérables dans un pays plongé dans une crise socio-économique sans précédent. Depuis 2019, le Liban est en proie à cette crise économique qualifiée par la Banque mondiale de l'une des pires de l'histoire moderne et des centaines de milliers de Syriens ont fui vers le Liban après le début de la guerre en Syrie en 2011. C'est la fin de ce bulletin.